don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达家
कपड़ों की लूट चलेंगे बात कर रहे हैं.
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Thibaut Sardier, mais aussi Camille Imbert, Sophia Anastasio, Clémence Alézard, Audrey Rameau, réalisée ce matin par Anna El Fakir et mise en onde par Élise Leu. On s'intéresse cette semaine aux grandes échéances politiques de l'année 2016. Nous parlions hier des États-Unis, on va s'intéresser ce matin à l'Afrique. 2016 sera l'année de nombreuses élections législatives, présidentielles, le Niger avec une élection présidentielle le 21 février, le Bénin la semaine suivante, l'Ouganda, le Tchad en mars, mais aussi plus tard au Congo-Brazzaville, au Gabon, en Angola, en RDC, bref, Afrique 2016, un continent aux urnes. 2015 avait déjà été une année dense et décisive pour les démocraties africaines. Beaucoup de pays ont observé, notamment avec beaucoup d'attention, ce qui se passait du côté du Burkina Faso. Après avoir chassé l'ancien président Blaise Compaoré, qui cherchait à se présenter pour un nouveau mandat après 27 ans de pouvoir, le pays a achevé sa transition, non sans difficulté, c'est vrai, on se souvient des coups de force réguliers exercés sur les autorités de la transition. En tout cas, la transition est maintenant achevée, puisque le pays a choisi un nouvel homme, Roch Marc Christian Kabore. Alors cette expérience constituera-t-elle un exemple dissuasif pour d'autres chefs d'État tentés par le tripatouillage constitutionnel leur permettant de se maintenir au pouvoir? D'autres pays n'ont pas suivi ce chemin. On pense au Burundi où Pierre Nkurunziza est passé en force, lui, en juillet dernier, remportant des élections, lui donnant accès à un troisième mandat consécutif et faisant basculer le pays dans une situation de quasi-guerre civile. Certains n'hésitant pas d'ailleurs à établir un parallèle entre la situation actuelle et celle qu'avait connue le Rwanda voisin avant le terrible génocide de 1994. Le Rwanda où là aussi le président Paul Kagame a modifié la constitution d'ailleurs afin de lui permettre de rester en place. Alors après une année 2015 très contrastée, c'est vrai, à quoi faut-il s'attendre pour 2016? Quels sont les risques, mais aussi peut-être les opportunités pour les États d'Afrique qui l'an prochain seront nombreux, très nombreux, à faire entendre leur voix par les urnes? Et d'ailleurs dans quelques heures, c'est vers un autre pays que tous les regards seront tournés, la République centrafricaine.
Malgré les soubresauts, les autorités de la transition continuent à mettre le cap sur les élections. Madame le chef d'État, Catherine Samba-Panza, a montré très clairement aux yeux du monde entier, et bien aussi aux yeux de la population centrafricaine, qu'elle était une femme de parole, puisqu'elle avait dit qu'elle ne se présenterait pas à ces élections. Et donc autant de choses positives qui auraient pu être mises en avant, au lieu de chercher toujours à remettre en doute le patriotisme des autorités de la transition.
Il faut que vous choisissiez vous-même les femmes et les hommes qui vont conduire vos destinées. Nous sommes déterminés à travailler avec vous pour que, après le vote, ce soit le développement.
J'ai confiance que les choses peuvent se dérouler dans des conditions satisfaisantes. Je pense que cette fois-ci, si la date est du 30 est la dernière échéance, mais nous y irons de manière ferme et déterminée.
Mais puisque je suis citoyen, je dois aller voter. À tous les peuples centrafricains, qu'il aille voter, comme ça, notre pays aura du changement et ainsi que de développement.
Voilà, quelques voix qui nous viennent de Centrafrique. Anicette Clément, Guyama Massogo, porte-parole du gouvernement. Parfait Onanga Anyanga, représentant spécial pour la République centrafricaine et chef de la mission des Nations Unies. On entendait également Stanislas Moussa Kembe, qui est candidat à cette élection centrafricaine. Et puis on entendait également cette simple citoyenne qui attend avec certaine impatience de mettre son bulletin dans l'urne. Initialement prévu en février, puis en juin, et puis en octobre. Et puis le 27 décembre, les élections présidentielles et législatives doivent se tenir maintenant. Demain, on va en parler bien sûr dans quelques instants, pour évoquer toutes ces élections qui vont agiter ce continent africain, on a invité Christian Bouquet qui est avec nous en duplex depuis Bordeaux. Bonjour Christian Bouquet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur de géographie politique à l'université Bordeaux-Montaigne. On va dans quelques instants évoquer bien sûr la Centrafrique qui est le pays qui est dans l'actualité immédiate. Mais d'abord peut-être une forme de bilan sur cette année 2015 parce qu'il y a eu de nombreux scrutins. Il y en a eu au Nigeria, au Togo, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, je le disais. Globalement, disons au regard en tout cas des inquiétudes qu'on aurait pu avoir, les choses se sont plutôt bien passées. Quand on regarde par exemple la Côte d'Ivoire où Ouattara a été reconduit au premier tour avec Bien sûr, ce souvenir extrêmement prégnant de la précédente crise post-électorale, ou alors quand on pense au Nigeria, où Mouhamadou Bouhari a succédé relativement sereinement à Goodluck Jonathan, qui a rapidement concédé sa défaite. On se souvient des heures pendant lesquelles les populations attendaient le résultat, où les gens étaient enfermés chez eux tellement ils avaient peur de violence finalement. Alors si on met du côté, bien sûr, de côté le Burundi, cette année 2015, elle a été plutôt positive pour les démocraties africaines, Christian Bouquet.
Oui, la plupart des inquiétudes qu'on avait pu ressentir, a priori, ont été levées. Alors, la plus grosse inquiétude était évidemment sur la Côte d'Ivoire, parce qu'elle avait laissé en 2010 un souvenir d'élections contestées, enfin de résultats contestés, et puis de troubles pendant
de
plus de 4 mois, de violence. Mais c'était surtout du côté du Nigeria qu'on avait les yeux tournés, parce que c'est quand même 68 millions d'électeurs, hein, 150 millions d'habitants. Et un risque, là encore, de contestation des résultats, parce que entre Goodluck Jonathan et Mouhamadou Bouhari, le résultat n'était pas sûr, et finalement, le vaincu a accepté sa défaite et tout le monde a été soulagé. Toute l'Afrique a été soulagée, je crois.
Et alors, quand on regarde devant nous, on a aussi quelques motifs d'optimisme. Il y a des pays où l'alternance est possible. Je pense au Bénin, on en parlera probablement, où Boni Yayi ne sera pas candidat. Donc, de toute façon, il y aura une alternance. Je pense peut-être aussi au Niger, même si le président Issoufou est quand même le mieux placé. Je pense au Ghana. Il y a quand même quelques possibilités d'alternance, Christian Bouquet. Alors, c'est pas le cas dans tous les pays. Hein. On va en parler, bien sûr. Mais il y a des motifs d'espoir quand même.
Oui, il y aura 16 élections hein, en 2016, c'est beaucoup. Hein. Si on ajoute les 16 ou 11 qui viennent de se dérouler, ça fait 27 pays qui auront connu des élections sur 54, exactement la moitié. On a l'impression que ça peut faire beaucoup de changements, dans la réalité pas vraiment. Hein. Vous disiez qu'on allait avoir une alternance au Bénin. Si c'est le dauphin de Boni Yayi qui accède au pouvoir, l'alternance sera pas réelle. On changera de tête, mais on ne changera pas forcément d'axe et d'orientation.
Oui, mais c'est
mais
quand même pas rien.
Ça passera probablement dans le calme. Mmh. Oui, bien sûr. Mmh. Le fait qu'il se retire, d'ailleurs,
absolument,
que Boni Yayi se retire, c'est un bon point.
Mmh. Alors, la Centrafrique, les autorités de transition ont reporté à plusieurs reprises, je le disais, les élections, à la fois législatives et présidentielles. Il y a eu, bien sûr, ces violences intercommunautaires qui continuent de déchirer les pays. Maintenant, elles doivent se tenir demain. On a repoussé, en tout cas pour le dernier report, on a évoqué des raisons d'ordre technique avec le problème d'acheminement des bulletins de vote qui ont mis plus de temps que prévu à arriver en Centrafrique. Vous pensez que les Centrafricains vont pouvoir s'exprimer demain?
Ben, si on regarde le référendum qui a eu lieu il y a 15 jours, il y a quand même plus de 700 000 Centrafricains qui se sont déplacés pour voter sur 1 900 000 inscrits. Je trouve que c'est pas si mal, d'autant plus qu'il faut quand même pas perdre de vue qu'il y a à peu près 450 000 réfugiés à l'extérieur, 440 000 déplacés à l'intérieur. Donc les résultats du référendum sont plutôt encourageants. Maintenant, il faut que l'opération qui aura lieu demain se déroule bien. Et pour ça, il faut que les 5000 et quelques 5800 bureaux de vote, je crois, soient approvisionnés en urnes, en isoloirs et surtout en bulletins, notamment parce qu'il y a deux élections. Hein. Il y a deux élections couplées. Il y a la présidentielle, bien sûr, qui est à deux tours. Il y aura peut-être un second tour. Et puis les législatives qui sont à un seul tour. Donc ça fait une grosse logistique à mettre en place. C'est pour ça qu'ils ont retardé de trois jours. On espère qu'ils iront jusqu'aux coins les plus reculés du pays et surtout qu'il n'y aura pas de troubles ou de violences qui viendront altérer le processus.
Ben allons voir justement comment les choses se préparent sur place. On va prendre la direction de Bangui avec Anthony Fouchard qui est journaliste pour RFI et qui est en ce moment même en Centrafrique. Bonjour Anthony Fouchard.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On est maintenant à quelques heures du scrutin, Anthony Fouchard. Simplement, quelle est l'atmosphère sur place, Anthony Fouchard?
Eh bien, ce matin, j'étais, pour vous dire, à l'aéroport de Bangui, un aéroport dans un hangar où ils conditionnent le matériel électoral. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il faut avoir confiance dans ce processus, parce que ce hangar était plein à craquer d'urnes, de bulletins de vote, de procès-verbaux, de bordereaux de dépouillement, de matériel électoral qui doit rejoindre, eh bien, avant demain, l'intérieur du pays. Alors pour ça, l'ONU a mis à disposition, eh bien, tous les avions qu'ils avaient à leur disposition, les hélicoptères, les avions privés qu'ils ont loués, et puis les avions de la force onusienne déployés ici, qui enchaînent les rotations pour acheminer ce matériel dans l'intérieur du pays, dans les provinces les plus reculées, dans lesquelles on ne peut pas aller par la route, ou alors en plusieurs jours, ce qui serait impossible, vu que cette élection est prévue demain. Mais ça s'enchaîne, et on peut dire que ça avance plutôt bien. Il y avait un hélicoptère qui décollait quasiment toutes les 4 à 5 minutes ce matin, c'est vous dire le rythme effréné et les contraintes logistiques qu'il y a à résoudre ici.
Donc ça paraît possible concrètement. Vous dites évidemment il y a encore beaucoup de travail dans les prochaines heures, mais ça paraît possible parce qu'il y a certaines rumeurs qui faisaient état visiblement sur place d'un nouveau report.
C'est possible. Honnêtement, les élections présidentielles et législatives auront lieu à Bangui demain, le 30 décembre. Ça ne fait aucun doute. Les rumeurs, qui sont de plus en plus insistantes, elles font état d'une dissociation des élections couplées. Votre invité l'expliquait très bien tout à l'heure. C'est une élection double, présidentielle et législative. Et certaines rumeurs, donc de plus en plus insistantes, tendent à croire que les élections législatives n'auraient pas lieu en même temps, notamment dans les provinces et surtout dans les provinces. Mais pour l'instant, rien d'avéré. L'Agence nationale des élections qui supervise, qui organise et qui est la seule à même de déplacer les dates ou de modifier quoi que ce soit reste sur cette date du 30 décembre de demain pour l'ensemble de ces scrutins, pour ces deux scrutins.
Alors Anthony Fouchard, évidemment c'est très compliqué d'évaluer un peu la situation, les tendances parce qu'il n'y a pas de sondage et d'ailleurs on sait très bien nous ici que les sondages c'est pas forcément toujours fiable, mais il y a en tout cas quelques personnalités qui émergent, qui ont émergé dans cette campagne. Il y a notamment les anciens premiers ministres Anicet Georges Dologuélé et puis Martin Zeghele, et puis on a aussi Abdoul Karim Mekassoua qui a été plusieurs fois ministre de l'ancien président François Bozizé. En quelques mots, en quoi est-ce que leurs projets politiques se distinguent les uns des autres et quelles sont leurs chances finalement? Est-ce que vous arrivez, vous, un petit peu sur place à mesurer, à sentir quelque chose frémir peut-être en faveur de l'un des candidats?
C'est très difficile. Vous avez évoqué un trio de têtes, je rajouterais même une quatrième personne, un quatuor, Désiré Kolingba, qui est un peu un outsider, hein, le fils de Kolingba, qui a été président dans ce pays aussi. Voilà, c'est un peu le quatuor entre lequel les centrafricains vont avoir à se décider. Un quatuor qui s'est imposé parce que ces quatre personnalités avaient déjà l'argent, le réseau nécessaire, le réseau en province pour pouvoir faire parler d'eux, pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir se faire connaître auprès des centrafricains. Les 26 autres candidats, puisqu'ils sont 30 à être en lice pour cette élection présidentielle, ne partaient pas tous avec le même réseau politique, les mêmes ramifications politiques dans les provinces. Et donc, ces quatre candidats se sont un peu imposés de fait par leur stature, par leur passif aussi, aux centrafricains. Et donc, après, vous évoquiez leur programme politique. Le pays est tellement détruit et à reconstruire entièrement qu'au final, leur programme politique à ces quatre personnes-là est semblable. Ils ont tous à la bouche les mots de réconciliation nationale, de relance économique, de refondation du système judiciaire. Alors même si, bon, ils louent un petit peu pour se différencier les uns des autres, ces trois thématiques sont indissociables et de toute manière primordiales, et c'est là-dessus que s'est basée la campagne de ces trois ou quatre candidats entre lesquels ce premier tour va sûrement se jouer.
Mais alors si les programmes sont à peu près les mêmes, sur quoi est-ce que la victoire peut se jouer?
Difficile à dire, et c'est bien pour ça que se risquer au pronostic est quand même assez difficile. Je ne saurais pas trop répondre à cette question. La victoire va se jouer sur la manière dont la campagne électorale a été menée ici en Centrafrique et en Afrique en général. Voilà, les candidats qui partent en campagne, on en a vu beaucoup avec des valises de billets pour encourager les jeunes, qui sont venus aussi avec beaucoup de promesses, qui ont laissé derrière eux de l'argent à destination d'une école, à destination de telle organisation, qui ont promis beaucoup de choses au micro dans les villes dans lesquelles ils se sont déplacés. Je dirais pas que c'est de l'achat de voix, mais c'est plutôt montrer à la population dans les provinces qu'on est là pour eux, qu'on est déjà là pour eux, et c'est ce qu'ont fait les candidats. Qui aura fait le plus d'impression et surtout qui traîne le moins de casseroles derrière lui, c'est surtout là-dessus que ça va se décider. Les Centrafricains ont très bonne mémoire, ils se souviennent très bien que certains des candidats, notamment le quatuor qu'on a cité précédemment, ont servi dans les précédents gouvernements. Certains ont eu leur moment de gloire et d'autres leur moment pas forcément glorieux. Ils aimeraient bien qu'on les oublie d'ailleurs pendant cette élection présidentielle. C'est surtout là-dessus, sur le passif des candidats, que cela va se jouer, je pense, dans les urnes et dans la tête des centrafricains.
Mmh. Anthony Fouchard, je vous garde encore quelques instants, mais je voudrais passer la parole à Christian Bouquet, parce que la ligne est vraiment excellente depuis Bangui, donc on vous garde encore un tout petit peu. Christian Bouquet, la question de la sécurité en Centrafrique, évidemment on a la mission des Nations Unies, la MINUSCA, qui va être extrêmement mobilisée pour assurer la sécurité de ce vote, pour aider, on entendait Anthony Fouchard, à l'acheminement du matériel électoral également. Il y a bien sûr les forces de sécurité nationale aussi qui sont là, il y a l'armée, la gendarmerie, la police, tout le monde va être très mobilisé. Vous pensez que le pays va parvenir à rassembler les conditions de sécurité nécessaires à la bonne tenue du scrutin, Christian Bouquet?
Ben, on semblait un peu rassuré ces derniers jours par les propos tenus par Noureddin Adam, le leader, enfin l'un des leaders de la Seleka, qui avait changé d'avis finalement, qui renonçait à la partition du pays et qui disait qu'il allait tout mettre en œuvre pour sécuriser précisément et l'acheminement des matériels et la tenue du scrutin. Donc si les autres chefs de la Seleka le suivent, pourquoi ne pas avoir un peu d'espoir quand même, parce que sinon, effectivement, il y aurait toute une partie du pays qui serait tenue à l'écart de cette élection.
Ben justement, Anthony Fouchard, ça sera ma dernière question à propos de Noureddin Adam, qui est effectivement l'ancien numéro 2 de l'ex-Seleka, qui est l'actuel leader du Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique, qui est une branche en fait de la Seleka, qui avait prôné la partition du pays avec cette proclamation d'une république indépendante au nord du pays. Et puis, depuis son refuge tchadien, il avait finalement regretté ses propos, affirmé son soutien, Christian Bouquet nous le disait, à l'élection. Comment comprendre ce revirement de situation? Et puis plus généralement, peut-être, quel est son pouvoir de nuisance sur la transition démocratique, Anthony Fouchard?
Je vais commencer plutôt par votre première question, parce que votre invité y est revenu au tout début de l'émission en expliquant que le référendum, malgré un faible taux de participation, environ 40%, avait prouvé que les Centrafricains voulaient aller voter. Et donc là, il faut revenir au 13 décembre. On est au PK5, c'est le quartier majoritairement musulman de Bangui, le quartier où Noureddin Adam a encore des partisans vraiment très farouches et très opposés à la tenue du processus électoral. Les habitants musulmans, eux, voulaient aller voter. Et la grande erreur de Noureddin Adam, et ce qui a enchaîné ensuite tout ce volte-face de ce chef de guerre, c'est les cas, eh bien, c'est que ses partisans ont attaqué une école dans un quartier musulman et ont attaqué donc des musulmans qui allaient voter. Et ça, eh bien, ça a été la plus grande erreur. Hein. C'est beaucoup de sources sécuritaires et d'observateurs l'analysent ainsi. Ses partisans, Noureddin Adam, à Bangui notamment, se cachaient et utilisaient la population un peu comme un faire-valoir, comme une sorte de légitimité d'être encore présent et armé. Et ils disaient, nous protégeons la population musulmane des attaques des anti-Balaka, qui sont des miliciens chrétiens ou animistes majoritairement. Et donc, ils tiraient de là leur légitimité. Et en tirant sur leur propre population, et bien la population s'est détournée d'eux, mais vraiment détournée du jour au lendemain, en organisant même des marches contre les leaders de cette branche, de Seleka, FPRC. Et donc, Noureddin Adam a dû au final se rendre à l'évidence. Sa pseudo-république qu'il a essayé de proclamer, il a essayé de hisser un drapeau dans le nord-est, et l'ONU a été très ferme, a descendu le drapeau et a décrété que la ville devenait une zone sans armes en désarmant ses combattants. Noureddin Adam, au final, n'a pas eu d'autre choix que d'aller se réfugier, hein, c'est ses mots, auprès du président tchadien, qui a un petit peu instauré la médiation, essayé de sauver les meubles. Et donc, voilà ce qui est un petit peu l'histoire de ce volte-face. Alors après, est-ce qu'il faut y croire ou pas? Eh ben, on verra demain. On va voir si les hommes de Noureddin Adam permettent que le scrutin se tienne, notamment dans le nord-est du pays.
Merci infiniment, Anthony Fouchard, pour votre éclairage. Vous étiez en direct avec nous depuis Bangui. Vous êtes journaliste pour RFI et vous allez suivre, bien sûr, ce scrutin qui va se tenir demain, a priori. Toutes les conditions sont rassemblées pour qu'il se tienne. Merci infiniment, Anthony Fouchard, d'avoir accepté notre invitation ce matin et d'avoir pris un peu de temps pour nous parler. Christian Bouquet, on va quitter la Centrafrique. On va peut-être s'intéresser, Christian Bouquet, au Niger, parce qu'il y a une élection présidentielle qui va se tenir, là aussi, très vite. Ça, c'est en février prochain, il y a quelques jours. Le président nigérien, qui s'appelle Mahamadou Issoufou, a affirmé qu'il y avait eu une tentative de coup d'État, alors ratée à Niamey. C'était le 17 décembre dernier. Écoutez Mahamadou Issoufou.
Le gouvernement vient de déjouer une tentative malheureuse de déstabilisation. Il s'agit d'un coup de poignard. Heureusement, pour notre pays, les principaux auteurs de cette folle aventure ont échoué et ont pu être tous identifiés et arrêtés, à l'exception d'un seul, actuellement en fuite. La situation est calme. est sous contrôle.
Voilà, la situation est calme et sous contrôle, nous disait Mahamadou Issoufou. Alors, on a assez peu d'éléments sur ce coup d'État raté, mais selon les autorités, il y a des écoutes téléphoniques qui auraient révélé une tentative de putsch de la part de militaires. Par ailleurs, on sait également que l'opposant Ama Amadou, qui est candidat à la présidentielle, a été entendu par des enquêteurs dans cette affaire, alors qu'il est en prison depuis son retour d'exil. Il est incarcéré dans le cadre d'une affaire de trafic international de bébés. Issoufou, ancien Premier ministre, 93-94, puis il a été député, il s'est présenté 4 fois à la présidentielle. 2 fois, il est arrivé au second tour face à l'ancien président Mamadou Tandja. À l'époque, la rupture avec Tandja s'était faite justement autour du désir de Tandja de se maintenir au-delà de mandat. En 2011, il l'avait finalement emporté. Votre regard sur cette affaire en général, et puis est-ce que vous pensez que l'opposant historique, disons, Amadou, peut-être celui qui serait le plus susceptible de l'emporter face à Issoufou, Amadou, va pouvoir se présenter, Christian Bouquet?
C'est difficile à dire parce que il est en prison, comme vous l'avez indiqué, pour une histoire assez sombre, assez sordide. D'ailleurs, de trafic de bébés, c'est ce qui est dit. En réalité, c'est adoption d'enfants du Nigeria. Son épouse a adopté des enfants du Nigeria et il semble que c'était illégal. Et donc, Issoufou en a profité pour le mettre en prison quand il est rentré, puisqu'il est resté en exil en France pendant un certain temps. Il est donc rentré il y a quelques semaines, il a été mis en prison immédiatement, et on attend de savoir si sa candidature sera validée ou pas. C'est la grande question. Mais on sent que le président Issoufou, qui avait plutôt bien réussi son mandat, son premier mandat. On note en particulier cet accord historique qu'il avait passé avec Areva et qui remet le Niger dans la voie de la croissance économique. Là, sur le plan politique, il est un peu fébrile dans ces dernières semaines avant le scrutin. Et il faut savoir aussi qu'il n'est pas militaire. Hein, c'était le premier président civil depuis 1996. Donc, il se méfie beaucoup des militaires, à raison probablement. Hein. Et donc, ces dernières semaines avant le scrutin risquent d'être un petit peu agité, alors qu'on pouvait imaginer un scrutin apaisé, éventuellement une alternance d'ailleurs, parce que les opposants à Issoufou font des calculs arithmétiques qui se disent que lors de la dernière élection, eh bien, s'ils avaient été alliés comme ils le sont maintenant, ils auraient gagné. Donc, ils pensent que là, ils vont peut-être gagner. Mais c'est sans doute ce que craint Issoufou, et c'est pour ça qu'il prend quelques mesures un petit peu sécuritaires.
Et quels sont les soutiens à l'intérieur du pays, mais aussi peut-être à l'extérieur? Parce que vous avez raison de rappeler, on dit beaucoup que Paris est un soutien indéfectible d'Issoufou. Vous avez raison de rappeler que Areva, il y a évidemment, est présente au Niger, exploite l'uranium. D'ailleurs, il y a certains opposants qui envisageraient visiblement de porter plainte contre Issoufou pour haute trahison à cause du contrat qui a été passé entre l'État nigérien et Areva, parce qu'évidemment il y a assez peu d'informations sur la nature exacte de ce contrat. Mais en tout cas, ce qu'on voit très bien, c'est que cette coopération pèse plus globalement dans les affaires politiques du pays, ce qui pose la question aussi du soutien extérieur d'Issoufou.
Oui, alors évidemment, on va pas retomber dans le faux débat de la France-Afrique, qui est maintenant complètement obsolète, mais quand on regarde le Niger et qu'on regarde Issoufou, on voit bien que c'est d'abord un ancien ingénieur des mines.
C'est pas une vision franco-française, hein. Quand je vous dis que certains opposants envisagent effectivement de porter plainte, là, il s'agit d'opposants nigériens, voilà.
Oui. Mais, je crois que c'est quand même que Issoufou a quand même le soutien international plus que ses opposants probablement. Maintenant, pourquoi les opposants porteraient plainte, vous me dites là?
À cause de la nature. En gros, ce qu'il dit, c'est que Issoufou a bradé les richesses du pays et notamment effectivement l'uranium exploité par Areva.
Oui, alors ça c'est toujours compliqué parce que ce genre d'accord portait sur la part qui allait revenir au pays et elle a été négociée comme dans tout contrat. Il a essayé d'obtenir le maximum, il a probablement obtenu le maximum de ce qu'il pouvait obtenir. Je crois que ce qu'il faudrait regarder ensuite et qu'il faudrait regarder surtout depuis les 30 ou 40 dernières années, c'est quelle est la part qui est revenue au pays et qui est vraiment retombée sur la population du pays. Je crois que c'est là.
C'est plus la question de la redistribution ensuite des richesses
qui en
sortent.
La redistribution, bien sûr.
Est-ce qu'on peut envisager au Niger une répression généralisée à l'échelle de la société ? Parce qu'on l'a dit, il y a Amadou qui pour l'instant est en prison et qui pour le moment n'est pas en mesure de se présenter à l'élection. Peut-être que ça va changer puisque c'est encore une possibilité. Mais est-ce qu'on peut imaginer une répression un peu générale à l'échelle de la société ? Ou est-ce que vous pensez que le pays et même finalement la figure de Mamoudou Issoufou nous laisse penser le contraire ?
Moi, je pencherais plutôt pour le contraire, d'autant plus que Mamadou Issoufou n'a pas forcément les moyens de se lancer dans une répression de sa population, ni les moyens d'ailleurs au plan de la vertu, ni les moyens militaires, parce que son armée est quand même très occupée ailleurs. Faut pas oublier que c'est un pays, même s'il affirme que dans son bilan, ce qui est bon, c'est qu'il a rétabli la paix, c'est pas entièrement faux, mais il y a toute une partie nord qui est pratiquement inaccessible à cause d'Acmi. Et puis toute la partie orientale autour du lac Tchad, qui est très peuplée, hein, faut pas l'oublier, qui est très très peuplée et qui est agitée par la présence de Boko Haram. Donc il a tout de même des moyens militaires qui sont engagés pour la lutte contre le terrorisme et qui, c'est un peu cynique de dire ça, mais qui ne va pas probablement retirer de là pour lancer contre sa population.
Alors restons dans cette Afrique de l'Ouest, Christian Bouquet. On va retourner un tout petit peu vers le Burkina Faso. Alors je le disais, Kaboré a gagné l'élection présidentielle. Il a achevé donc ce processus de transition qui avait été engagé en octobre 2014 avec effectivement cette insurrection, cette révolte de la société qui voulait empêcher Blaise Compaoré de se représenter pour un nouveau mandat alors même qu'il sortait de 27 ans de pouvoir. Kaboré a donc gagné dès le premier tour avec 53,5% des suffrages exprimés. Écoutez son discours de victoire.
Nous devons conjuguer nos efforts pour placer les pleins et réussir dans la vérité, la justice, la réconciliation nationale et consolider la cohésion sociale entre tous les Burkinabés. Je tiens à réitérer ma détermination à mettre en œuvre mon programme pour ouvrir les opportunités d'un lendemain meilleur.
Voilà donc Roch Kaboré, le nouveau président du Burkina. Quand on relit finalement l'expérience burkinabé de 2015, on se dit qu'a priori, ça devrait dissuader les chefs d'État africains de modifier la constitution comme avait voulu le faire Blaise Compaoré. Sauf qu'on voit qu'en réalité, il n'en est rien. Regardons le Burundi, j'en parlais tout à l'heure. Regardons le Rwanda qui a voté par référendum, c'est vrai, la révision constitutionnelle, mais qui en tout cas permet à Paul Kagame de se représenter. On voit que le tripatouillage constitutionnel, finalement, a encore de beaux jours devant lui, Christian Bouquet.
Ah, ça vient de la spécificité du Burkina Faso. C'est un pays où la conscience politique est à un niveau élevé depuis la période Sankara, où la presse est parfaitement libre et en plus de très grande qualité, et où les mouvements citoyens, c'est-à-dire ces coalitions de la société civile, sont anciens et ont une véritable tradition politique et culture politique qui s'est exercée et qui a montré ce qu'elle était capable de faire lors de l'insurrection de la fin octobre 2014. Ça, c'est propre au Burkina Faso. On a vu que le mouvement du Ballet Citoyen, par exemple, qui reprenait un peu les thèmes de Yann Amar au Sénégal, ce mouvement a été imité, mais pâlement, dans des pays comme la RD Congo, avec Filimbi ou Lucha.
Avec la Lucha, oui.
Hein, Lucha, par exemple, ou Filimbi. Et puis on a vu aussi au Burundi à un moment que la foule essayait également de prendre la rue pour une insurrection populaire, mais avait une beaucoup moins grande culture politique, beaucoup moins grande organisation qu'au Burkina Faso, et donc ce n'est pas du tout comparable. C'est un exemple, je dirais presque unique, le Burkina, ce qu'ils ont appelé eux-mêmes la rucratie, c'est-à-dire la prise de pouvoir par la rue. Alors, faut ensuite peut-être un petit peu nuancer tout ça.
Alors, mais justement, nuançons, Christian Bouquet, parce que vous avez raison de rappeler cette conscience politique qui est propre au Burkinabé, cette rucratie, pour y être allé effectivement au printemps dernier, j'ai pu m'en rendre compte assez directement, et c'est vrai que c'est quelque chose de très frappant. Mais quand même, il y avait aussi des conditions, j'allais dire, plus techniques à cette transition. Et je voudrais qu'on s'attarde un moment là-dessus. La question de l'inclusivité. En gros, est-ce qu'il faut permettre aux anciens caciques d'un régime mis sur la touche par le peuple de se représenter? Parce que c'est une question, évidemment, qui a été soulevée avec le Burkina. Quand on a eu à l'automne ce coup d'État conduit par Gilbert Diendéré, le chef du RSP, de la garde républicaine, c'était son exigence, c'était ce qu'il demandait. Votre regard sur cette inclusivité, est-ce qu'il faut, après une révolution, tout simplement empêcher les anciens du régime déchu de se présenter? Parce qu'après tout, on pourrait se dire que laissons-les se présenter et puis le peuple choisira souverainement. Christian Bouquet.
Oui, alors ça, c'est nous qui disons ça. Hein. Nous, en Occident, on l'a vu très nettement, nous, dans notre laboratoire LAM, là, de Sciences Po Bordeaux, au moment de la tentative de coup d'État de Diendéré, on était en réunion avec nos doctorants africains, et notamment burkinabés, et on était en désaccord, parce que nous, on voit les choses comme ça. Il n'y a pas de raison d'écarter ceux qui ont soutenu Compaoré, le peuple choisira. Et puis, vous avez... Nos amis africains qui nous disent non, parce que le peuple n'est pas mûr partout pour comprendre les enjeux. Et là intervient un élément qu'on prend pas toujours en compte, qui est la différence entre le peuple des villes, alors la fameuse rucratie, celle que vous avez vue, et puis le peuple des campagnes, qui représente quand même dans tous ces pays souvent plus de 50% de la population, qui est moins instruit et par voie de conséquence souvent beaucoup plus attaché à la légalité en place, donc au pouvoir en place, parce que celui-là les flatte, et puis parce que c'est le chef beaucoup plus respecté, qu'il a les moyens d'aller faire ses campagnes jusque dans les coins les plus reculés, alors que les leaders du mouvement insurrectionnel n'avaient pas ces moyens-là. Donc c'est vrai que ça paraît quelque part peu démocratique, mais c'est un argumentaire qu'on peut entendre.
Alors, autre point sur lequel je voudrais qu'on s'attarde un tout petit peu, c'est la question du troisième mandat. Parce qu'évidemment, dans nombre de constitutions, à la fois bien sûr en Occident, mais maintenant de plus en plus de constitutions africaines, il est stipulé qu'un chef d'État ne peut pas faire plus de mandats successifs. Ce qui a poussé, bien sûr, nombre de chefs d'État justement à modifier ces constitutions. Je parlais tout à l'heure de Blaise Compaoré, je parlais de Paul Kagame au Rwanda, qui a modifié cette constitution par voie référendaire. Est-ce que ce principe limitatif, il doit être absolument conserver? Est-ce que ça doit rester la barrière infranchissable, ou est-ce qu'on peut imaginer que peut-être, dans certains cas, eh bien, il faut pouvoir modifier cette constitution? Prenons le cas, par exemple, du Rwanda. Est-ce que le désir de stabilité, et peut-être aussi le bilan économique globalement salué de Kagame, ne pourrait pas nous laisser penser qu'il faudrait peut-être revoir ce principe limitatif?
Ah là, on est entraîné dans un débat un petit peu compliqué, parce que effectivement la stabilité, tout le monde en a besoin, et il n'y a pas de meilleure stabilité que celle qui vient d'un dictateur. Là, on est confronté à un autre malentendu autour de la démocratie. C'est vrai que la question des deux mandats, deux mandats limitatifs, c'est quelque chose qui a été pratiquement imposé par la communauté internationale, faut pas l'oublier, et notamment par Obama. Et John Kerry, partout où il passe, quand il est en Afrique, ne cesse de répéter « Respectons absolument les constitutions qui ont prévu deux mandats et pas plus, et évitons des constitutions qui en prévoient davantage. » Or, vous avez raison de dire que, parfois, malheureusement, pour stabiliser réellement un pays, deux mandats de 5 ans, c'est-à-dire 10 ans, ça peut être un petit peu court. Alors, comment font les chefs d'État confrontés à ce problème pour modifier leur constitution? On retombe sur le sujet qu'on traitait à l'instant. Souvent, ils doivent passer par un référendum. Et souvenez-vous, au Burkina Faso, lorsque Compaoré avait envisagé de passer par un référendum, son opposition avait dit sûrement pas, parce que le référendum, il va le gagner, vu qu'il a toutes les voix des campagnes.
Et il était passé par le Parlement et ça ne s'était pas fait.
Voilà. Alors ça ne s'est pas fait parce que le Parlement n'a pas pu se réunir.
Absolument. Parce que la rue l'en a empêché, oui.
La rue l'en a empêché. Mais vous voyez, c'est toujours cette même question. Le peuple des campagnes va voter pour les présidents sortants, un petit peu par légalisme. Et les oppositions politiquement plus consciente, semble-t-il, ont du mal à comprendre qu'un peuple, c'est un peuple. Hein. Il y a celui qui vote en ville et qui a été instruit et sans doute capable de comprendre des grands enjeux. Et puis, semble avoir un peu de mépris pour ce peuple des campagnes. Ce qui nous gêne, nous, quand on fait une analyse de ces jeunes démocraties.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Culture Monde cette semaine autour des grands enjeux politiques de l'année 2016. On est aujourd'hui du côté du continent africain, Centrafrique, Niger, Congo, RDC dont on parlera tout à l'heure, mais aussi le Bénin, tout un continent aux urnes. Le Bénin justement, les Béninois vont se rendre, ça sera très bientôt maintenant, en février prochain, aux urnes pour les élections présidentielles. Le président Yayi Boni est en place depuis 2006. On a appris cette semaine que le premier ministre béninois, l'ancien banquier d'affaires franco-béninois Lionel Zinsou, était sorti indemne d'un accident d'hélicoptère et ça tombe bien parce qu'il pourrait peut-être être candidat justement à la succession de Yayi Boni. Sa nomination d'ailleurs de Lionel Zinsou en juin dernier avait un peu étonné, mais c'est peut-être un joli coup politique parce qu'aujourd'hui on attend beaucoup de cet homme, on attend beaucoup de son action et donc d'une certaine manière les Béninois pourraient être tentés de jouer la carte de la continuité. On parlait justement de continuité, Christian Bouquet, pour voir justement les fruits de l'action de ce Lionel Zinsou. Écoutez-le justement.
Nous sommes là, partis pour maintenant nous organiser et sur le terrain offrir aux électeurs une chance de continuer tout ce qui a été commencé par le président de la République. Continuer. Et en même temps de changer tout ce qu'on n'a pas pu encore faire et qui doit maintenant entrer comme réforme dans les faits.
Ah, la bonne vieille continuité dans le changement, Christian Bouquet, vous entendiez, Lionel Zinsou. Alors, je le disais, Boni Yayi a annoncé qu'il ne serait pas candidat à sa propre succession, ce qui est déjà un signe positif, Christian Bouquet. Ça sera Zinsou, en tout cas c'est son dauphin désigné.
Oui, c'est son dauphin désigné, et puis c'est la nouvelle génération des politiques. Non, parce qu'il est relativement âgé, je crois qu'il a 60 ans ou 61 ans, Lionel Zinsou. Mais,
et puis que c'est pas un politique.
Banquier.
Et oui, c'est ça.
Alors c'est pas un politique, c'est un banquier qui entre en politique. Alors on en a aussi chez nous, hein. Mais celui-ci, c'est le bon élève des institutions financières internationales. C'est peut-être une chance économique pour le Bénin, parce qu'il connaît bien les mécanismes à mettre en œuvre pour profiter précisément de toutes les aides qui peuvent venir des institutions Banque mondiale et FMI, et puis pour rester dans l'orthodoxie budgétaire des grands équilibres macroéconomiques, c'est sans doute l'homme de la situation. Maintenant, il apparaît quand même comme le candidat de la France. C'est tout de même quelqu'un qui a travaillé, je crois, au cabinet de Laurent Fabius. Il peut être perçu comme ça, et ça peut être un argument contraire au moment où il va se présenter.
Mais ce qui est intéressant, et vous avez raison de le dire, Christian Bouquet, de rappeler que ce n'est pas un homme politique. Parce que quand on regarde les autres candidats, il y a évidemment des hommes politiques qui ont fait carrière, mais il y a aussi des hommes qui viennent d'autres milieux. Et je pense par exemple à Patrice Talon, qui est un richissime homme d'affaires béninois, et sa candidature pose aussi cette question-là, c'est-à-dire, d'une certaine manière, au Bénin, peut-être qu'on se rend compte que, face à l'échec de la classe politique en général, eh bien, ce sont d'autres hommes qu'il faut convoquer. Parce que Patrice Talon, lui, c'est un Béninois.
Ouais, c'est un Béninois, c'est surtout un businessman.
C'est quelqu'un qui
a fait beaucoup d'argent dans l'ombre de Boni Yayi jusqu'à ce qu'il se fâche. Hein. Ça arrive souvent, c'est arrivé aussi à Djibouti. Et donc, c'est une nouvelle catégorie de leaders, comme vous le dites, qui sont pas politiques au départ, mais qui se sont quand même servis de la politique pour s'enrichir, qui disposent donc de gros moyens. Et votre correspondant à Bangui le disait tout à l'heure, quand on fait une campagne électorale, c'est important d'avoir de gros moyens parce qu'on distribue toutes sortes de choses, en plus des promesses. Donc, si Talon est candidat, comme on l'imagine, contre Zinsou, ça va faire une campagne, peut-être une campagne un peu à l'américaine, qui va commencer à modifier la manière dont on fait de la politique en Afrique.
Allez, on quitte le Bénin, on va prendre la direction du pays qui... Ah, évidemment, c'est peut-être la grande inconnue pour cette année 2016, c'est la RDC, parce que si on se réfère à la Constitution, Kabila, qui est au pouvoir depuis 2001, ne peut pas se représenter. Mais visiblement, il en a assez clairement l'intention. En tout cas, il fait tout pour reculer le scrutin, pour gagner du temps. Il y a un porte-parole de la majorité présidentielle, André Alain Atundu, qui a affirmé récemment qu'il faudrait 2 à 4 ans pour organiser ces élections. Alors, on ne sait même pas si elles auront effectivement lieu en novembre 2016, mais en tout cas, c'est ce qui est prévu. Écoutez justement Kabila.
En ma qualité de garant de la nation, j'en appelle une fois de plus au sens élevé des responsabilités de chacun et de tous, afin qu'au sorti du dialogue national, nous soyons plus unis qu'avant dans la mise en œuvre d'un processus électoral authentiquement congolais. Je ne permettrai pas que le sacrifice consenti ensemble au cours des dernières années pour bâtir la paix et la sécurité dans notre pays et dans la région, balisant ainsi la voie vers l'émergence, soit compromis.
Voilà, Kabila appelant à l'unité, appelant au dialogue national, donc processus électoral que Kabila veut serein et donc long, très long, probablement très très long. Alors qu'est-ce qu'il faut attendre de cette année 2016 s'agissant de ces élections qui doivent se tenir normalement en novembre prochain? On va retrouver un nouvel invité, c'est Thierry Vircoulon, il est basé à Nairobi, il est chercheur associé à l'IFRI, directeur du programme Afrique centrale d'International Crisis Group. Et on retrouve Thierry Vircoulon, il est au micro de Thibaut Sardier.
Les élections à venir qui devraient se tenir en novembre 2016 sont censées, là aussi je dis censées, être tout à fait différentes puisque le président Kabila ne peut pas y prendre part. Il y a une limitation à 2 mandats qui est très claire dans la constitution congolaise. Et c'est pour ça que j'employais le conditionnel en parlant de cette élection puisqu'il y a la tentation très forte de la part du camp présidentiel de ne pas organiser les élections l'année prochaine. Alors que au Congo-Brazzaville, par exemple, le président Sassou, lui, plutôt dans la démarche inverse, puisqu'il vient d'annoncer qu'il avance le calendrier électoral de juillet au début de l'année prochaine.
Est-ce que ça signifie qu'en République démocratique du Congo, Kabila cherche à gagner du temps pour changer la constitution, comme on l'a vu par exemple au Rwanda en 2015?
Non, il lui est impossible d'aménager la constitution et de faire une révision constitutionnelle comme l'ont fait les présidents Sassou et Kagame, puisque justement il y a un article dans la constitution qui fait que le seul élément qui ne peut pas être modifié dans la constitution, c'est précisément la limitation à 2 mandats présidentiels.
Donc pour vous, quelle est la stratégie de Kabila?
Beaucoup de gens s'interrogent, en effet, se demandent s'il s'agit de gagner du temps pour organiser son départ ou sa succession, ou s'il s'agit de tout simplement décréter l'état d'urgence et bloquer complètement le processus électoral. Mais pour le moment, il est clair que les préparatifs électoraux qui devait avoir lieu en 2015 n'ont pas eu lieu en RDC, en République démocratique du Congo. Et par conséquent, la préparation électorale est déjà très en retard. Donc il y a une très forte pression actuellement de l'opposition pour que le travail électoral commence.
Alors l'opposition, justement, en République démocratique du Congo, elle s'est regroupée au sein d'un front citoyen avec l'idée de se rallier peut-être autour d'un candidat commun. Est-ce que pour vous, ça peut permettre de bâtir vraiment une opposition crédible, voire de mobiliser la société civile?
Depuis le début de cette année, on sent bien un mouvement de coordination. Cette opposition, comme partout, est assez diverse. Mais elle a, on sent bien qu'il y a eu un objectif commun qui est que le président Kabila respecte la Constitution et donc les élections aient lieu en novembre 2016 sans lui. Après, cette opposition diverge sur les moyens de parvenir à cet objectif, évidemment. Là aussi, comme dans d'autres pays, je crois que ce qui est très important, c'est de voir l'engagement de la société civile derrière l'opposition, ou en tout cas qu'elle partage la même vision que l'opposition sur le scrutin de novembre 2016. Sur la question du candidat unique, c'était ce qui n'a pas été possible en 2011. Et donc beaucoup s'interrogent sur savoir si cela sera vraiment possible en 2016. Ou si on est dans des idées qui sont en fait des ballons d'essai lancée à droite et à gauche par différents membres de l'opposition.
De ce point de vue-là, est-ce que pour vous, les élections réussies au Burkina Faso en 2015, où il y avait une forte mobilisation sociale, a eu valeur d'exemple aussi en République démocratique du Congo ?
Il est clair que la RDC, aussi bien l'opposition que le pouvoir, ont observé avec attention ce qui se passait au Burkina Faso. Et donc, aussi, on a vu une tentative de... Une émergence de la société civile ou de certains groupes de la société civile congolaise qui ont voulu imiter un peu ce qui s'était passé au Burkina Faso et suivre un peu la même tactique. Mais ce qui est vrai, c'est que on sent, alors probablement moins fort qu'en Afrique de l'Ouest, mais on sent qu'il y a dans la société civile congolaise une critique et voire une exaspération, une frustration à l'égard de l'opposition politique traditionnelle. Et donc, vous avez l'apparition de nouveaux mouvements qui viennent de la société civile. Et ces mouvements, je pense, sont autant motivés par la volonté de ne pas voir le président Kabila se présenter en 2016 que par le fait qu'ils n'ont pas grande confiance dans l'opposition politique traditionnelle.
Alors il y a un pays qui a l'air de faire exception, Thierry Vircoulon, c'est la Tanzanie, parce que les élections qui ont eu lieu en 2015 ont placé au pouvoir un président qui est plutôt nouveau dans le paysage politique. Est-ce que vous confirmez que la Tanzanie, de ce point de vue-là, fait exception ?
La Tanzanie, c'est un peu comme le Kenya. Premièrement, c'est des pays d'Afrique de l'Est. Deuxièmement, ce sont des pays où les élections ont lieu de manière à peu près régulière et à date fixe. Et donc, un fonctionnement institutionnel qui est bien plus solide que dans les pays d'Afrique centrale, c'est clair. En ce qui concerne la Tanzanie, on peut parler d'une démocratie sans alternance. C'est toujours le même parti qui reste au pouvoir depuis l'indépendance, quasiment, le CCM. Il y a un changement d'homme. Le président Kikwete a été remplacé par le président Magufuli, mais il ne faut pas oublier que c'est le même parti qui reste au pouvoir depuis l'indépendance. Mais ce qu'il faut noter dans le cas de la Tanzanie, qui est en effet intéressant, c'est que cette élection a été l'élection la plus contestée et la plus dangereuse pour le CCM. C'est-à-dire que l'opposition s'est quand même très bien battue en Tanzanie et a menacé un peu la domination du CCM. Donc il y a des espoirs que aux prochaines élections, que l'opposition cette fois-ci prendra le dessus. En ce qui concerne le Kenya et la Tanzanie, on est dans des démocraties à alternance limitée, mais on sent que le fonctionnement institutionnel, le fonctionnement des organismes électoraux est bien plus professionnel qu'en Afrique centrale. Et puis, ce sont des pays où on voit que l'opposition mobilise beaucoup sur le thème de la lutte contre la corruption, parce que la population a atteint un certain niveau de vie et est maintenant en mesure de comprendre l'importance de la lutte contre la corruption, ou plutôt de comprendre l'importance de la corruption dans les problèmes du pays. Donc, on voit bien que les répertoires politiques des pays d'Afrique de l'Est et des pays d'Afrique centrale n'ont rien à voir.
Thierry Vircoulon, chercheur associé à l'IFRI, au micro de Thibaut Sardier. Réaction à Christian Bouquet, Thierry Vircoulon qui nous disait, s'interrogeait, est-ce que Kabila cherche à gagner du temps pour peut-être organiser son départ ou sa succession, ou alors bloquer totalement le processus électoral? Ce qui est vrai, c'est que l'opposition est en train de s'organiser. On a d'ailleurs appris, Christian Bouquet, qu'il y a un rapprochement qui a eu lieu entre Moïse Katumbi, qui est probable candidat à la présidentielle et qui a récemment quitté la majorité, et Félix Tshisekedi, qui est le fils d'Étienne Tshisekedi, l'opposant historique à Kabila. On a aussi, bien sûr, cette société civile qui s'organise. On parlait, vous le disiez tout à l'heure, Christian Bouquet, de la Lucha, lutte pour le changement, ce mouvement citoyen. Vous pensez, Christian Bouquet, que l'alternance est possible en République démocratique du Congo ?
Alors, ce qui est important de préciser, c'est que la nécessité d'avoir un candidat unique de l'opposition vient du fait que l'élection présidentielle se déroule en un seul tour en RD Congo. C'est-à-dire que celui qui arrive en tête a gagné. C'est un système qui est un peu particulier, mais qui, j'espère, ne fera pas école dans les autres pays, parce que sinon, ça serait trop simple. Mais là, ça oblige effectivement l'opposition à trouver un candidat unique qui pourrait arriver le premier si il se présente contre Kabila. Alors, cette société civile, elle a peut-être à gagner dans le glissement qu'est en train d'organiser, semble-t-il, Kabila, qui va reporter le plus possible l'échéance, parce que comme ça, elle va se muscler. Cette société civile avec les mouvements citoyens, on a parlé de Lucha, mais il y a aussi Filimbi, il y a aussi Quatrième Voix, il y a donc un certain nombre de groupes qui sont souvent des jeunes, hein, des mouvements citoyens jeunes, qui tournent autour des artistes très souvent, hein, comme ça a été le cas, les citoyens où il y en a marre, hein, et qui semblent fédérer vraiment toute la partie la plus importante et la plus dynamique du corps électoral, qui est quand même la jeunesse, une jeunesse qui a beaucoup à attendre de ces élections.
Merci beaucoup, en tout cas, Christian Bouquet. On avait encore une multitude de choses à aborder ensemble. On n'a pas parlé, par exemple, du Congo-Brazzaville, où, a priori, Denis Sassou Nguesso, là, on parlait d'alternance. On voit mal comment est-ce qu'elle pourrait être possible, mais en tout cas, il y aura quand même une élection en 2016. On n'a pas parlé du Tchad, où, là aussi, Idriss Déby est en exercice depuis longtemps, très longtemps, depuis 90. Là non plus, on ne voit pas très bien l'alternance possible, mais en tout cas, voilà, il faudra scruter pendant cette année 2016 tous ces différents scrutins qu'il va y avoir par-ci, ci et ça et là dans ce continent. Merci beaucoup en tout cas à vous Christian Bouquet d'avoir été avec nous en duplex de France Bleu Gironde. D'ailleurs je remercie les techniciens qui sont à vos côtés qui ont permis de faire cette liaison.